Anatole France, Émile. Mademoiselle Bergeret se taisait. Elle sourit, ce qui ne lui était pas habituel. « Pourquoi ris-tu, Zoé ?» demanda M. Bergeret. « Je pense à Émile Vincent. »« Quoi, Zoé, tu penses à cet excellent homme qui vient de mourir, que nous aimions et que nous pleurons, et tu ris ?»« Oui, je ris parce que je le revois comme il était autrefois, et que les vieux souvenirs sont les plus forts. » Tu devrais pourtant savoir, Lucien, que tous les sourires ne sont pas joyeux, pas plus que toutes les larmes ne sont douloureuses. Il faut que ce soit une vieille fille qui t'explique cela. Non, je n'ignore pas, Zoé, que le rire est l'effet d'un trouble nerveux. Madame de Custine, en faisant ses adieux à son mari condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, fut prise d'un fou rire dans la prison, à la vue d'un détenu qui passa près d'elle en robe de chambre et en bonnet de nuit, le visage fardé, un bougeoir à la main. « Non, mais cela n'est pas comparable, » dit Zoé. « Non, » répondit M. Bergeret, « mais je me rappelle ce qui m'advint à moi-même quand j'appris la mort de cette pauvre Demey qui chantait dans les cafés-concerts des chansons joyeuses. C'était à la préfecture un soir de réception. » Worms Clavelin nous dit « Demey est morte ». Je reçus pour ma part cette nouvelle avec une tristesse décente, et songeant que l'on n'entendrait plus jamais la grosse fille chanter « Je casse des noisettes en m'asseyant dessus », j'exprimais au-dedans de moi toute la mélancolie contenue dans une telle idée. Je l'égouttais dans mon âme et je gardais le silence. Le secrétaire général, M. Lacarel, s'écria de sa voix profonde dans sa moustache nationale « Demey est morte ! Oh, quelle perte pour la gaieté française !»« C'était ce soir dans le journal, » dit le juge Pilou. « Effectivement, » ajouta le général Cartier de Chalmot avec douceur, « et l'on assure que cette personne est morte munie des sacrements de l'Église. » À ce simple propos du général, une imagination soudaine, bizarre, incongrue me vint à l'esprit. Je me représentais la fin du monde telle qu'elle est écrite dans le Dies Irae, au témoignage de David et de la Sibylle. Je vis le siècle réduit en cendres. Je me figurais les morts sortant de leur tombeau et se pressant en foule devant le trône du juge, à l'appel de l'ange, et la grosse Demey toute nue à la droite du Seigneur. À cette idée, j'éclatais de rire sous les regards surpris des fonctionnaires civils et militaires. Le pire est qu'incapable d'échapper à cette vision, je dis tout en riant. Vous verrez que par sa seule présence, elle ôtera tout sérieux au jugement dernier. Jamais parole, Zoé ne fut moins comprise. Jamais parole ne fut moins approuvée. Mais tu es absurde, Lucien. Je n'ai pas d'imagination bizarre, moi. J'ai souri parce que je me suis représenté mon pauvre ami Vincent tel qu'il était dans la vie, voilà tout. C'est bien naturel. Je le regrette de tout mon cœur. Nous n'avions pas de meilleur ami. Oui, comme toi, je l'aimais beaucoup, Zoé, et comme toi, je suis tenté de sourire en pensant à lui. C'était un sujet de curiosité qu'il logea dans un si petit corps tant d'ardeur militaire et qu'avec une figure ronde et poupine, il eut une âme héroïque. Oui, sa vie s'écoula tranquille dans le faubourg d'une ville de province. Il fabriquait des brosses aux tintelleries. Mais ce soin n'emplissait pas son cœur. Mais il était encore plus petit que l'oncle Jean, dit Mademoiselle Bergeret. Et il était martial, et il était civique et colonial, dit M. Bergeret. C'était un bon et honnête homme, dit Mademoiselle Bergeret. Il avait fait la guerre en 1870, Zoé. Il avait 20 ans alors, moi je n'en avais que 12. Il me semblait avancé en âge, grand par les ans. Un jour de l'année terrible, Il entra avec un bruit de ferraille dans notre paisible maison provinciale. Il venait nous faire ses adieux. Oh, il portait un effroyable costume de franc-tireur. De sa ceinture écarlate sortaient les crosses de deux pistolets d'arçon. Et comme il faut qu'on puisse encore sourire dans les heures les plus tragiques, la fantaisie inconsciente d'un obscur armurier l'avait accroché à un démesuré sabre de cavalerie. Pardon, ne me reproche pas, Zoé, ce tour de langage. Il est dans une lettre de Cicéron. « Qui donc, dit l'orateur, a accroché mon gendre à cette épée ?» Mais ce qui m'étonna le plus dans l'équipement de notre ami Émile Vincent, ce fut ce démesuré sabre. J'en conquis, oh mon âme enfantine, une espérance de victoire. Je crois, Zoé, que tu fis plus attention aux bottes, car tu levas la tête de dessus ton ouvrage et tu t'écrias « Tiens, le chaboté !» J'ai dit « Le chaboté ? Pauvre Émile !» Oui, tu as dit « Tiens, le chaboté !» N'en aie pas de regret, Zoé. Madame d'Abrantès raconte dans ses mémoires qu'une petite fille appelée aussi chaboté, le jeune et maigre Bonaparte, un jour qu'elle le vit ridiculement accoutré en général de la République. Bonaparte lui regarda rancune. Notre ami, plus magnanime, ne s'offensa pas de ton propos. Émile Vincent fut mis avec sa compagnie à la disposition d'un général qui n'aimait pas les francs-tireurs et qui dit à cela « Ce n'est pas le tout que d'être habillé en mardi gras, il faut se battre. » Alors l'ami Vincent écouta sans trouble cette forte harangue. Il fut admirable toute la campagne. On le vit un jour s'approcher des avant-postes ennemis avec la tranquillité d'un héros et d'un myope. Il n'y voyait pas à trois pas devant lui. Rien ne pouvait le faire reculer. Durant les 30 années qu'il lui restait à vivre, il se rappela ses mois de campagne en fabriquant des brosses de chiens-dents. Il lisait les journaux militaires, présidait les réunions de ses anciens compagnons d'armes, assistait aux inaugurations des monuments élevés aux combattants de 1870. Il défilait à la tête des ouvriers de sa fabrique devant les statues de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc et des soldats de la Loire à mesure qu'elle sortait de sol français. Il faisait des discours patriotiques. Ah, et nous touchons ici, Zoé, à une scène de comédie humaine dont on goûtera peut-être un jour la bouffonnerie lugubre. Émile Vincent s'avisa de dire au cours de l'affaire qu'Esterhazy était un escroc et un traître. Il le disait parce qu'il le savait et qu'il était bien trop candide pour jamais cacher la vérité. À compter de ce jour-là, il passa pour un ennemi de la patrie et de l'armée. Il fut traité de traître et d'étranger. Le chagrin qu'il en eut hâta les progrès de la maladie de cœur dont il était atteint. Il mourut triste et surpris. Oh, la dernière fois que je le vis, il me parla de tactique et de stratégie. C'était le sujet préféré de ses conversations. Bien qu'il eût fait campagne en 70 dans un grand désordre et une excessive confusion, il était persuadé que l'art de la guerre est le plus beau des arts. Et je crains de l'avoir fâché en lui disant qu'il n'y a pas à proprement parler un art de la guerre et qu'à la vérité on emploie, quand on fait campagne, tous les arts de la paix, la boulangerie, la maréchalerie, la police, la chimie, etc. « Mais pourquoi, Lucien, demanda Mlle Bergeret, as-tu dit des choses pareilles ?»« Mais par conviction, répondit M. Bergeret. Ce qu'on appelle stratégie est au fond l'art pratiqué par l'agence Cook. Il consiste essentiellement à passer les rivières sur des ponts et à franchir des montagnes par des cols. Quant à la tactique, les règles en sont puériles. Les grands capitaines n'en tiennent pas compte. Sans l'avouer, ils laissent beaucoup faire au hasard. Leur art est de créer des préjugés qui leur sont favorables. Il leur devient facile de vaincre quand on les croit invincibles. C'est sur la carte seulement qu'une bataille prend cet aspect d'ordre et de régularité qui révèle une volonté supérieure. « Ce pauvre Émile Vincent, » soupira Mademoiselle Bergeret. « Il est vrai qu'il aimait beaucoup les militaires. Et je suis sûr, comme toi, qu'il a cruellement souffert quand il s'est vu traité en ennemi par le monde de l'armée. » La générale Cartier de Chalmot a été bien dure pour lui. Elle savait mieux que personne qu'il donnait beaucoup aux œuvres militaristes. Pourtant, elle rompit toute relation avec lui quand elle sut qu'il avait dit qu'Esternazy était un escroc et un traître. Et elle rompit sans ménagement. Comme il s'était présenté chez elle, elle s'approcha de l'antichambre où il l'attendait. Et elle cria de façon à être entendue de ce « Dites que je n'y suis pas !» Pourtant, ce n'est pas une méchante femme. « Non, certes, » répliqua M. Bergeret. Elle agit avec cette sainte simplicité dont on vit en d'autres temps des exemples plus admirables encore. Nous n'avons que des vertus médiocres. Et ce pauvre Émile n'est mort que de chagrin. »